Alors, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Nouvelle Vie, bien sûr, ici à Longueuil, à Nouvelle Vie en ligne. Des gens qui nous suivent en direct en ce moment partout à travers le Québec, la francophonie. Il y a même plein de gens qui nous suivent dans le Canada anglais, qui nous écrivent, qui sont des francophones. Aux États-Unis aussi, ce matin, je salue des gens en particulier qui sont en Floride, qui suivent la Réunion. Et mon message ce matin, c'est notre arme la plus puissante. Notre arme la plus puissante. Il y a une organisation caritative américaine qui a trouvé bon de faire une tournée. Souvent, les organismes vont avoir une célébrité qui va les accompagner dans différents pays. Ça, c'est une tournée dans différents pays et œuvres humanitaires qu'ils sponsorisaient sur le continent africain. Et ils avaient invité comme vedette une personnalité sportive, mais c'était un champion, le champion de mondial à cette époque-là, le monsieur Olympia, le champion de culturisme. Un monsieur avec des muscles sur ses muscles. Avec des muscles à des places que vous ne saviez même pas qu'existaient et lui a des muscles. Et c'est assez particulier. On peut se demander la pertinence nécessairement, mais monsieur très bien intentionné. Et là, il l'a amené dans les villages où il avait fait des développements et tout ça. Et lui, il faisait ce qu'il fait. Alors, il y a un moment donné où ça commence, la musique part, puis lui se met à faire ses pauses. Alors, je vais vous faire maintenant une... Non, je ne le ferai pas. En ligne, vous n'êtes pas capable de supporter ça, et ici non plus. Alors, mais s'il va faire toutes ses pauses, et c'est très plastique, et d'un côté et l'autre, et toutes les sortes de pauses possibles, et ça, c'est pour le chest, et ça, c'est le dos, les bras, ah, le mollet, et etc., etc., les gens, le village était un peu interloqué, et à la fin, le chef du village... Lui a dit, écoutez, monsieur, bravo. Il dit, merci. Bravo, c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu un être humain avec tant de muscles. Il dit, merci, c'est beaucoup de travail. Alors, le chef lui pose une question. Il lui dit, juste une question. C'est vraiment impressionnant, mais à quoi d'autre te sers-tu de tout ça? Tu te sers de tout ça, là, pas. Pourquoi d'autre? À quoi d'autre que c'est utile? Et l'autre, dont c'est la profession, dont c'est le métier, dit non, rien d'autre. Et le chef du village lui répond, quel gaspillage d'avoir tout ça et de ne pas s'en servir. L'apôtre Paul, dans notre message ce matin, notre arme la plus puissante, on va regarder à Éphésiens 6, qui est un chapitre sur le combat spirituel. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous révèle que nous avons des armes. Nous avons des armes spirituelles dans notre combat dans l'invisible, ce qu'on appelle l'armure du croyant. Ici, on l'a enseigné année après année. Il y a eu 8 semaines où on a traversé chaque portion de l'armure. Mais l'image est que le croyant a des armes. Il a une armure, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice comme bouclier, le zèle de l'évangile de paix comme chaussure à nos pieds, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, 12 et 13, où il nous fait découvrir notre arme, la plus puissante, celle qui met en marche, celle qui donne vie à chacune des autres armes. Dans Éphésiens 6, 12 et 13, Paul nous dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi... J'aimerais que vous disiez à voix haute avec moi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul dit en fait, quel gaspillage d'avoir toutes ces armes, d'avoir toute cette armure et de ne pas s'en servir ou de ne pas savoir s'en servir. La parole de Dieu nous enseigne, et Paul nous dit ici, et il dit à chacun d'entre nous, si tu saisis ça ce matin, ça change tout, que vos combats, vos batailles, vos conflits ne sont pas contre le monde physique, contre le monde visible. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a toutes ces manifestations dans le monde physique de ce qu'on voit et ce qu'on vit, mais le vrai combat, vos combats, batailles, conflits ne sont pas contre le monde physique. Le monde physique est le résultat. Mais le combat, mais ce n'est pas le monde physique, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu expérimentes ici, c'est le résultat, mais ce n'est pas la racine. ce qui te fait du mal, ce qui te tourmente, ce qui t'attaque, ce qui te déchire, ce n'est pas ultimement du monde physique, mais ça émane non pas du monde physique et matériel, mais d'un monde spirituel, du monde que tu ne vois pas. Si tu n'adresses pas la cause ultime, tu ne trouveras jamais la cure. L'ennemi ne veut pas que tu découvres et que tu actives ton arme la plus puissante. L'ennemi veut te garder, ne veut surtout pas que tu apprennes à activer ton arme la plus puissante, que tu connaisses et comprennes où se situe véritablement la source de tous tes combats. Et parce que là, tu deviendrais, si tu le saisis ce matin, tu deviendras dangereux contre les ténèbres. Si tu prends tes armes, la plus puissante, celle qui active et décuple la manifestation et l'accomplissement de toutes les autres que Dieu t'a donné, tu vas devenir dangereux contre le royaume des ténèbres. Qui est intéressé à devenir dangereux contre le royaume des ténèbres? Dangereux pour Dieu. Écoute-moi bien, tant et aussi longtemps que l'ennemi de ton âme te garde dans la dimension, dans la sphère de tes soucis, tes souffrances publiques ou secrètes, tes situations, ce que tu vis ici sur la terre et que tu ignores la source, et il te garde prisonnier, il te garde en otage. Paul dit, ton vrai combat est dans une sphère, est dans une réalité, une dimension qui est spirituelle et non physique seulement. C'est là que tu dois ramener tous tes combats. C'est là que tu dois aller et apprendre à aller combattre. Paul nous dit, tenez ferme, apprenez à résister. Le mot pour résister, c'est antithesmie. Antithesmie, on en tire le mot antithesmie, force contre force. L'apôtre Paul dit, tu dois apprendre à tenir ferme, à résister avec la force de Dieu contre toute force. Mon désir pour toi, ce n'est pas que tu survives, que tu passes à travers. Mon désir pour toi, c'est que tu sois fort et ferme et que tu puisses résister, opposer toute la force de Dieu dans les lieux célestes avec son résultat sur la terre à tout ce qui vient contre toi afin que tu puisses avoir tout surmonté par ma grâce et par mon esprit. Vous devriez dire Amen. Paul nous dit, tenir ferme, notre arme la plus puissante, c'est cette victoire dans le lieu céleste. Et la bonne nouvelle, il nous dit de tenir ferme sur la terre, parce que la victoire, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà acquis toutes nos victoires dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, la victoire est accomplie. Jésus a vaincu l'ennemi. Il a écrasé la tête de l'ennemi. Il y a une victoire dans le ciel que Dieu veut que j'aille saisir sur la terre. Est-ce que tu dis oui? La bonne nouvelle, c'est que tu es victorieux en Christ dans l'invisible. Même si dans le physique, dans le visible et le présent, tu vis défaite, difficulté, combat, tourment. Écoute-moi bien, si tu veux être victorieux dans le physique sur la terre, comme tu l'es en Christ dans le ciel. C'est comme ça que Jésus nous a appris à prier. Comment devrions-nous prier? Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Si tu veux être victorieux dans le physique sur la terre, comme tu l'es en Christ dans les lieux célestes, tu dois adresser toutes tes batailles et combats humains spirituellement. Tu dois les adresser dans l'esprit. Tu dois les adresser là où le combat prend vraiment place. Si tu n'adresses pas tes combats et tes défis physiques et humains spirituellement, il y a des victoires acquises et accomplies déjà pour toi que tu ne verras jamais devenir réalité, que tu ne pourras jamais t'approprier. En ce moment, dans le ciel, il y a des entrepôts, des immenses entrepôts spirituels avec ton nom écrit dessus, avec l'affiche « Non réclamé ». De victoires que Dieu a préparées, qui sont acquises en Christ, que tu peux aller chercher en prière. J'espère que vous êtes avec moi. Je veux aller réclamer toutes les victoires que Dieu a préparées pour moi en Christ dans les lieux célestes. Une des choses les plus difficiles pour Dieu, c'est de nous apprendre à voir et à vivre les combats et les enjeux très réels de nos vies avec une perspective, un point de vue et des références qui sont spirituelles plutôt qu'à travers le prisme ou la lentille de nos cinq sens. Notre nature est de vivre tout ce qu'on vit seulement avec la lentille de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je dis, de ce qui m'est dit, de ce que je touche, de ce qui me touche. mais il nous a pourvu des armes spirituelles. Et notre arme la plus puissante, sans laquelle toutes les autres armes deviennent amoindries, toutes les armes de l'armure deviennent moindres, affaiblies, amoindries. Et notre arme ultime, notre arme la plus puissante, par laquelle toutes les autres armes de Dieu sont activées dans nos vies, pour qu'on puisse s'emparer ensemble de l'abondance que Dieu a pour nous, notre arme la plus puissante, c'est la prière. C'est pour ça que dans le combat, il y a cette séquence dans Éphésiens 6, l'attaque, l'armure et l'activation. L'attaque, l'armure, l'activation qui va produire l'autorité et l'accomplissement. L'attaque, l'armure, l'activation par la prière qui va produire l'autorité et l'accomplissement. C'est pour ça que vous avez toute la description du combat, vous avez l'armure et vous arrivez au verset 18 du chapitre 6. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, passionnément, librement, le mystère de l'Évangile. Je veux que vous remarquiez dans ce texte qui va activer toute l'armure de Dieu. Je veux que vous remarquiez dans ces courts versets combien de fois, de toutes sortes de formes, la prière est non seulement mentionnée et soulignée comme notre arme la plus puissante dans ce court passage. Priez en tout temps, priez par l'Esprit, priez toutes sortes de prière, prier avec supplication, prier et veiller à continuer à prier, prier avec persévérance, prier pour tous les croyants, prier pour moi. L'apôtre Paul, comme leader spirituel, dit, est-ce que vous priez pour moi? Et je vous pose la question à vous aujourd'hui, est-ce que vous priez pour moi? Est-ce que vous priez pour les pasteurs, pour les leaders de votre église qui portent la vision et qui sont sous attaque de l'ennemi? La prière qui est là, et prier pour ceux qui ont besoin de connaître le mystérion de Dieu, que je puisse annoncer le mystérion de Dieu. Le mot mystérion, mystère, mystérion de Dieu ici dans le texte, c'est ce qui était caché avant, mais qui est maintenant pleinement révélé, l'Évangile de Jésus-Christ. Il conclut cette révélation et le rappel de la réalité des vraies racines du combat spirituel dans les lieux célestes avec cet appel passionné à la prière, parce que c'est seulement la prière qui nous permet de revêtir l'armure. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens qui peuvent vous citer l'armure, peuvent entendre 1000 prédications sur l'armure, et l'armure ne semble pas être activée en eux, ne semble pas être de quelque effet que ce soit en eux. Comment pouvons-nous revêtir l'armure? Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'armure est plus qu'une belle métaphore, qu'un concept métaphorique, que c'est l'image de l'armure? Comment est-ce que l'armure peut être plus qu'un folklore chrétien? Comment est-ce qu'elle peut vraiment devenir réalité et être activée dans les vrais combats de la vie à chaque jour et surtout actualisée dans le aujourd'hui par la prière? Et bien sûr, lorsqu'on parle de la prière, la question ultime, quelle sorte de prière? C'est quoi la prière? On chante la prière, on parle de la prière, on enseigne la prière, on fait des prières. À quelque part, tout le monde ici sait qu'on devrait prier, que ça doit être bon à quelque part pour nous de prier. Mais je voudrais vous amener un petit peu plus profondément ce matin, je pense, dans quelques clés pour vous, pour activer votre arme la plus puissante. Pourquoi? Parce que si tu comprends la prière comme ton arme la plus puissante, ça va changer comment tu pries. Ça va changer si tu pries vraiment, ou si en ce moment tu baisses la tête en ligne ou en personne en disant « Ah, il y a un autre message sur la prière, je vais passer à travers. » Si tu vas prier ou non, ce que tu vas prier et comment tu vas recevoir et qu'est-ce que tu vas recevoir, comment, à quel point tu vas recevoir des réponses à tes prières. Pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est comme l'hymne national au début d'événements sportifs. C'est comme l'hymne national. Avant un match de hockey, de foot, un match de soccer, un combat de boxe, vendredi soir, un combat de boxe, quelqu'un qui chante l'hymne national avant. Pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est comme l'hymne national. Ça signale qu'il y a quelque chose qui commence, mais ça n'a aucun rapport vraiment avec ce qui va se passer sur le terrain. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe à la glace. Ça n'a pas rapport vraiment avec la vraie vie, qui va gagner, qui va perdre, qui va passer le match au complet sur le banc, à pas réellement jouer, l'autre qui va vraiment marquer, l'autre qui va vraiment faire la différence, l'autre qui va se blesser, l'autre qui va... Et surtout, ça n'a vraiment pas vraiment... On chante l'hymne national avant, et plusieurs chrétiens, leur dimanche matin, leur worship est un peu dans cette attitude-là de l'hymne national où la musique joue, puis t'attends que la vraie game commence. Beaucoup de chrétiens, là, c'est pas grand-chose de plus qu'une missionnaire. Pensez-y un instant. On va se parler en ligne ici, là. On se parle cœur à cœur. Il y a un type de prière, il y a une superficialité de prière qui ne bouge pas le ciel et qui nécessite pas grand-chose, que même on peut même faire sans trop y penser. Souvent, là, par exemple, la prière pour la nourriture. On prie pour la nourriture, on a chacun notre formule, etc. Lorsque ma fille est ici ce matin, lorsque ma fille était enfant, on enseignait aux enfants à prier, on rendait grâce pour la nourriture, c'est quelque chose d'important, et quelque chose de spirituel, mais de semaine en semaine, de repas en repas. Alors, ma fille était très jeune. À un moment donné, on dit, ben là, tu veux-tu prier? Ben, elle dit, OK, je vais prier. Elle était très sérieuse. Ben, elle dit, Seigneur, bénis maintenant cette nourriture, sanctifie-la pour nos corps. Avec comme Satan. Sanctifie-la pour nos corps, au nom de Jésus. Amen. Première fois que j'ai entendu dire ça, je trouvais ça profond. Sanctifie-la pour nos corps. Alors, deuxième fois qu'elle fait ça, troisième fois, à peu près la dixième fois qu'elle dit sanctifie-la pour nos corps. Amen. Je dis, ben là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sanctifie-la pour nos corps? Ah, oh, ben là, papa, commence pas à marcher à lire. Des formules. Des formules. On peut prier, mais juste rendre grâce au Québec amène toutes sortes d'expériences. Mais je me souviens une fois, j'étais en train de prier, on était dans un restaurant, moi et un ami d'église, un monsieur, un homme d'affaires, on était assis ensemble dans un petit resto, et puis on a amené la soupe, le petit serveur amène la soupe, les deux soupes, et on penche la tête, nous, pour comment, il s'en va, on penche la tête pour commencer à prier, puis on a pas, lui, il a fait trois pas, puis il a vu les deux gars se mettre la tête dans leur soupe. Fait qu'il revient, Philippe est en train de prier, Seigneur, béni maintenant. Et là, le serveur revient, mais hey, monsieur, es-tu correct la soupe? Es-tu correct la soupe? Et Philippe, pour expliquer au gars, pour essayer d'expliquer à un Québécois typique, il dit, ben, on est en train de rendre grâce. Et le gars dit, la soupe est trop grasse? Mais comment la soupe est trop grasse? Vous savez qu'on peut prier à ce niveau-là, c'est un niveau qui est là. Pour trop de chrétiens, la prière est comme un pneu de rechange dans le coffre de ta voiture. On le veut là, en cas où on aurait besoin, on y pense pas souvent, on y pense pas vraiment, mais c'est bon de savoir que je peux le sortir, surtout lorsqu'il y a une urgence. Dites à la personne près de vous et en ligne, dites à quelqu'un si tu es à côté de toi, dites à la personne près de vous, il parle pas de toi en ce moment, dites ça à quelqu'un près de vous. Dieu veut absolument que tu comprennes que la prière est ton arme la plus puissante. Il veut absolument que tu comprennes que la prière, c'est une arme de bénédiction massive. C'est une arme de restauration massive, de guérison massive. C'est une arme de protection massive. C'est une arme de consolation massive. La prière est une arme qui prend du ciel et l'amène sur la terre là où nous vivons. Une définition de la prière très simple. On a ici des gens qui marchent, et en ligne, des gens qui marchent avec Dieu depuis 50 ans, puis il y en a qui sont là depuis quelques jours. Une définition de la prière. La prière, c'est la demande et la permission sur la terre pour une intervention du ciel. La demande et la permission sur la terre pour une intervention du ciel. Une demande et permission terrestre pour une intervention céleste. Une demande et permission humaine pour une intervention divine. C'est la terre qui demande au ciel d'intervenir dans ce qui arrive dans nos vies avec toute la compassion, la compétence divine, la connaissance et la capacité divine. Et ça, cette définition-là, elle appelle à une question. Pourquoi la terre doit-elle donner accès ou demander donner la permission au ciel d'intervenir? C'est très important que tu comprennes ça. Parce que Dieu a organisé l'univers et a organisé son royaume sur la terre en fonction de cette relation où Dieu va agir en réponse aux hommes et aux femmes qui portent son nom. Dès la création, Dieu a dit, je vais déléguer mon autorité à créer l'homme et la femme, et voici, ils vont régner, ils vont avoir une autorité. Pas une autorité pour démolir, pour dominer sur des gens, non, l'autorité sur le mal, sur le péché, sur la peur, sur les chaînes de l'ennemi, une autorité qui est spirituelle. La prière est notre arme la plus puissante lorsque tu comprends les réalités spirituelles. Il a créé l'homme et la femme. Il y a des choses que pour dominer. Dieu a choisi d'agir de deux façons. Il y a sa volonté qui est inconditionnelle et il y a sa volonté qui est conditionnelle. La volonté inconditionnelle de Dieu sont les choses que Dieu va faire indépendamment de nous. Dieu va faire. Dieu a des plans et a ses plans éternels dans les époques, dans les millénaires, dans les nations et dans les peuples que la main de l'homme ne pourra jamais empêcher, que Dieu va faire. C'est inconditionnel. Dieu a un plan, une horloge, un calendrier prophétique il est en contrôle de toutes choses. Je le dirais de la manière la plus simple possible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire un roman, un peu un thriller, et vous allez voir un peu à la fin comment ça se finit avant d'avoir fini le livre au complet. J'aimerais vous dire que j'ai lu la fin du livre, c'est nous qui gagnons. J'ai lu la fin du livre, c'est Dieu qui triomphe. Il est alpha, il est oméga, le commencement et la fin. Et il est en contrôle de toutes choses. Voulez-vous le célébrer avec moi ce matin? Dieu est en contrôle de toutes choses. Mais il y a aussi une multitude de choses où Dieu intervient en réponse à nos prières. Ça, c'est sa volonté conditionnelle. Si mon peuple s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies et appelle aux cieux, je l'entendrai des cieux et je guérirai son pays. Il y a plusieurs centaines d'appels de Dieu à cette collaboration divine. La prière est ton arme la plus puissante parce qu'elle prend des désirs de Dieu au ciel et les accomplit sur la terre. C'est la volonté conditionnelle de Dieu parce qu'il t'a créé, il nous a créé avec cette volonté libre, avec ce libre choix. Tu peux demander à Dieu de venir intervenir dans ta vie. Tu peux demander, lui donner accès à ses interventions dans ta vie. Ou tu peux le garder hors, il ne s'imposera pas à toi. Tu peux le garder hors de ton mariage, de ton couple, de ton ministère, de ton appel, de tes ambitions. Tu peux le garder hors, tu peux le garder ou tu peux l'appeler à venir intervenir, à lui donner accès et permission dans ta vie. La prière devient puissante lorsque tu comprends que la prière ne force pas Dieu à faire quoi que ce soit qu'il ne veut pas faire. Ne va pas tordre le bras de Dieu, tu ne vas pas le cajoler, le prendre en otage, de trouver une façon de le forcer à. La prière demande au ciel d'intervenir, lui donne accès, totale permission, s'abandonne à venir faire la volonté de Dieu d'amour, de sagesse, de bonté, dans toute sa puissance et dans toute sa souveraineté. La prière dit à Dieu, viens faire ce que toi tu veux faire à travers moi. Viens faire ce que toi tu veux faire. Lorsque tu comprends que la volonté de Dieu est plus grande et plus sage que la tienne. Lorsque tu comprends que sa sagesse est tellement plus haute que la tienne. Que ses plans sont infiniment plus beaux et grands que les tiens. Et que tu peux même imaginer que sa puissance est sans limite. Lorsque tu comprends ça, tu dis, Seigneur, non seulement je te donne accès, je t'appelle à venir intervenir dans ma vie. J'avais une conversation avec quelqu'un qui chemine après des années à se faire témoigner, qui chemine pour une première fois de sa vie dans la foi. Quelqu'un qui est proche de moi, que je ne nommerai pas, mais qui a 56 ans et après 40 ans, 4 décennies d'alcoolisme. Je vous parle d'un alcoolisme, moi, avant 11h le matin, il y a plusieurs bouteilles de vin de bu, c'est comme ça, 20h sur 24. 40 ans d'alcoolisme, toutes les méthodes et thérapies possible. En ce moment, il est dans une période, c'est sa 3e année de sobriété complète. Il est complètement sobre, il est en train de transformer. Dieu est en train de transformer sa vie au complet. Et on en parlait ensemble vendredi soir, puis lui, il a fait tous les programmes possibles. Il ne le disait pas avec un dénigrement, mais il disait, les 12 étapes, là, toutes seules, là, ça marche pas. Les 12 étapes, tout ça. Si vous connaissez le fondement du mouvement des alcooliques anonymes, c'était des chrétiens évangéliques qui ont fondé ce mouvement. On a donné 12 étapes qui étaient des étapes fondées sur des versets de la Bible. La première étape, c'était tu reconnais ton impuissance à Dieu. Et à travers les années, ça a été changé en tu reconnais ton impuissance à Dieu tel que tu le conçois. Tel que tu le conçois. Et lui, tout nouveau, même les premiers balbutiements de la foi, mais marche avec Dieu un jour à la fois depuis ses 3 ans de sobriété où sa vie est en train de transformer. Puis il me dit, c'est pas Dieu. Parce que lui a entendu des centaines de témoignages de gars qui disaient, c'est Dieu tel que tu le conçois. Fait que moi, Dieu, c'est mon oncle. Moi, Dieu, c'est mon père qui est mort. Moi, Dieu, c'est la vie. Moi, Dieu, c'est mes enfants. Moi, Dieu. Puis la méthode, le système, il marche pas avec Dieu que toi-même t'as créé. Il marche juste avec un Dieu qui est vivant et qui donne puissance, capacité sur terre de faire ce que tu ne peux pas faire toi-même. La question, c'est donc, est-ce que tu l'invites à intervenir? Est-ce que tu lui laisses le contrôle? Est-ce que tu lui donnes le même accès? Est-ce que tu lui donnes accès? Viens intervenir, Seigneur, dans mon mariage, mon couple, mes enfants, mes pensées, mes anxiétés, mes ambitions, mon caractère, mes intentions. Ou est-ce que tu t'enlises? tu t'aveugles et tu t'épuises à rester au niveau humain, à rester dans tes pensées, dans la dimension humaine, alors que le vrai combat est spirituel. Est-ce que tu comprends que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, nous dit 2 Corinthiens 5. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses. Dieu veut pour chaque croyant pas d'être un spectateur qui vient à l'église, dit quelques prières comme ligne nationale et retourne, mais que chacun d'entre toi soit, chacun d'entre nous, toi en ligne, sois un abatteur de forteresses. Nous abattons avec nos armes spirituelles, par la prière, des forteresses de peur et de péché et de liens du passé et de dépendance. Nous sommes, par la vertu de Dieu, capables d'abattre des forteresses. C'est ça la prière. C'est ton arme la plus puissante. Lorsque tu comprends les réalités invisibles et lorsque tu connais ton rôle spirituel. On va regarder un texte extraordinaire ensemble dans Jacques chapitre 5. Que vous connaissez, plusieurs d'entre vous connaissez, et au verset 17, au verset 16, qui nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Jacques place la guérison comme conditionnelle à la prière. Alors qu'il y a un peuple qui a prié, que nous prions les uns pour les autres, il y a une guérison du ciel qui prend place. La guérison était l'intention de Dieu, mais l'intention divine arrive en réponse à l'intercesseur sur la terre qui va la chercher dans le ciel pour la terre. Et c'est pas seulement sur les pages, c'est pas seulement sur le siège de dimanche matin. Il y a des centaines de groupes Nouvelle Vie en personne, en Zoom, de groupes de prière qui à chaque semaine, moi je suis nourri à chaque semaine de groupe qui prient ensemble. Si tu n'as jamais participé à un groupe de prière, va t'inscrire, va vivre l'expérience. Jacques chapitre 5 et verset 16 prend place à chaque jour, à chaque semaine, encore aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même. Lorsque nous prions, nous confessons nos besoins, nos péchés, nos fautes ensemble et que nous prions les uns pour les autres, nous montons vers le ciel la prière et le ciel répand la guérison. Ceux qui l'ont vécu, voulez-vous dire amen et voulez-vous encourager quelqu'un? Cette prière-là, pas la prière rituelle, hymne national, du bout des lèvres en pensant à d'autres choses. Mais la prière qui est fervente. Le mot grec parle de passionné, d'authentique, de réel, de cœur qui se déverse devant Dieu. Du juste à une grande efficacité, à une puissance accomplie tellement plus que tu pourrais penser. La prière fervente. Et là, il prend la peine de dire, il donne l'exemple de, on continue verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût point. Et il tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Élie était un homme, un prophète de l'Ancien Testament qu'on va regarder dans un instant, qui a prié et le ciel, à la demande de Dieu, le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Et après ça, le ciel s'est ouvert pendant qu'il priait. Tu as cette capacité en Dieu de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Nous sommes appelés à fermer les ciels. Il y a un ciel, il y a un univers spirituel qui est sur des gens qu'on connaît, sur nous-mêmes. Un ciel où vous avez déjà vécu pendant une saison, où vous connaissez quelqu'un qui vit sous un ciel de désespoir, un ciel de découragement, un ciel d'accusation, un ciel de culpabilité, un ciel de dépendance. Nous avons, où l'ennemi a accès libre et détruit, nous avons le pouvoir par la prière de fermer ce ciel-là et d'ouvrir le ciel de la bénédiction de Dieu et de la vérité de Dieu et de la libération de Dieu dans la vie des gens. C'est l'appel que nous avons. Il prend la peine de nous dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Et il comprenait les réalités spirituelles, il connaissait son rôle, et Dieu s'est servi de lui pour ouvrir et fermer le ciel et produire un fruit sur la terre. Il a pris du ciel et l'a amené sur la terre. Ouvrir le ciel de destinée de Dieu, notre appel, et fermer le ciel des actions démoniaques par la prière est notre appel. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'est pas un surhomme. C'est magnifique parce que la Bible, lorsque vous lisez le personnage d'Élie dans la Bible, tu vois toute son humanité. Il y a des moments de dépression, il y a des moments de peur, d'angoisse, de colère, de frustration. Et tu es un homme de la même nature que nous. Il est en train de dire, c'est pour toi. C'est pour toi en ligne. C'est pour ta vie aujourd'hui. Il est un homme de la même nature que nous. Nous sommes appelés à changer le cours des choses sur la terre par la prière. À ouvrir le ciel de bénédiction pour fermer le ciel qui a blessé. Ouvrir le ciel de transformation pour fermer le ciel et l'activité des ténèbres. La prière nous révèle ce que Dieu désire pour nous et nous permet de réaliser la volonté de Dieu. Elle l'annonce à nos âmes pour qu'on puisse l'accomplir. La prière me permet d'entendre sa volonté et d'entrer et d'exécuter sa volonté. La prière m'infuse de sa volonté afin que je puisse intercéder pour sa volonté et littéralement en venir à incarner sur la terre ce que Dieu avait désiré. La prière ouvre mon oreille et mon cœur à sa volonté afin d'obtenir sa volonté. Lorsque tu comprends et lorsque tu comprends la réalité spirituelle et tu connais ton rôle. Une chose qu'on voit ici, c'est que Jacques, lui, nous dit simplement que Élie a prié, le ciel s'est fermé, le ciel s'est ouvert, il a prié avec persévérance. Mais peut-être que vous n'avez jamais fait cet exercice, je veux vous amener à la prière originale d'Élie. Parce qu'on l'a dans la Bible. L'événement que Jacques mentionne est un événement biblique qui a pris place des centaines d'années auparavant. Et on l'a dans 1er Roi 18 et le verset 1, puis il y a une clé qui est très, très importante. Ne manquez pas ça. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il comprenait les réalités invisibles et il connaissait son rôle spirituel. 1er Roi, chapitre 18 et le verset 1. « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. « Va, présente-toi devant Achab, et Dieu dit, je ferai tomber la pluie sur la face du sol. » Ce que Jacques nous dit, c'est que la pluie a été retenue, et après la pluie a été relâchée, répandue et reçue par les prières. Mais 1er Roi 18 nous révèle que Élie a prié selon ce que Dieu avait déclaré. L'Éternel a dit, « Moi, je vais faire tomber de la pluie sur la face du sol. » Le Dieu Tout-Puissant de l'univers a dit, « Je déclare, je vais faire tomber de la pluie sur la surface du sol. » Et pourtant, ce que Dieu avait déclaré dans le ciel n'est devenu réalité sur la terre que lorsque Élie a prié et prié encore et encore. Il y a des désirs de Dieu dans le ciel qui sont préparés, qui attendent un intercesseur, qui attendent ta prière, qui attendent un Élie, toi et moi, qui allons venir à l'accomplir en prière sur la terre. Alors, Dieu l'a déclaré. Et Élie avait cette déclaration de Dieu. Et on a, tu vas aller vers le roi et tu vas lui dire, parce que moi, c'est Dieu qui va le faire. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et 1er Roi 18, 41-44, on a sa prière. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Se penchant contre terre, mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Il prie pour la pluie. Le serviteur monta, le regarda et dit, « Il n'y a rien. » Il dit cette fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. » Dans les versets suivants, la pluie promise qui vient donner vie à tout ce qu'elle touche. La prière devient notre arme la plus puissante lorsque tu comprends les réalités invisibles et lorsque tu connais ton rôle. Ne manquez pas ceci, Élie a prié selon ce que Dieu avait déclaré. Mais même si le ciel l'avait déclaré, il n'y a pas une goutte qui est tombée sur la terre avant que Élie appelle de la terre la volonté de Dieu. C'est ça, c'est l'homme de Dieu sur la terre qui intercède et qui rend et qui permet à la promesse, à ce qui est préparé, ce qui a été annoncé par Dieu, de prendre place. C'est même intéressant. Le portrait physique, la façon, il y a toutes sortes de physicalité dans la Bible, à genoux, étendus, debout, les bras tendus, toutes sortes de façons dont ils ont prié. Mais ici, dans ce moment que je crois prophétique, il y a un positionnement physique qui représente une dynamique spirituelle. Lorsque vous lisez dans le texte, c'est très particulier, lorsqu'on lit dans le texte qu'il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Tous les commentateurs dans les textes originaux disent que c'était vraiment la position de l'enfantement. Il était en position d'une femme qui va enfanté. C'est vous ce qu'il était en train de faire? Il était en train de prier. Il était en train de faire le travail. Toutes les femmes savent qu'il y a... Et Élie a poussé cette fois. Toutes les maris qui ont assisté à l'accouchement, pousse, chérie. Laisse-moi tranquille, pousse, chérie. C'est ce genre de choses. Manquez pas ceci. Élie, comprenez l'image spirituelle. Élie a poussé à la réalité ce qui avait grandi en lui par Dieu. Ce que Dieu avait déposé à l'intérieur a été poussé à la réalité. Sept fois il a prié. Sept fois il a intercédé. Cette position-là signifie que le croyant est appelé à donner naissance à des choses spirituellement qui sont dans le cœur de Dieu. Dieu les dépose. Mais dites à la personne près de vous, il faut que tu pousses. Sept fois, j'attends, je prie pour la pluie. Va! Il appelle son serviteur. Va voir! Reviens! Ah, vous avez pas l'air de saisir toute l'ampleur. Je vous ferai pas une scène d'accouchement. Il y a des choses qu'on peut pas faire en ligne. Mais je vais demander à un jeune serviteur d'Élie de s'approcher. Voulez-vous applaudir Jérémie qui vient, qui s'approche, qui représente le serviteur d'Élie? Alors, le prophète dit, j'ai prié, j'ai une parole qui vient de la part de Dieu, je m'en vais le chercher, je connais, je comprends les réalités spirituelles, je connais mon rôle d'intercesseur. Alors, j'appelle, Dieu l'a dit, j'appelle maintenant à la pluie, il va se passer quelque chose. Va sur la montagne, va voir, la pluie s'en vient. Vas-y, va voir, quand même rapide. Alors, reviens, j'attends les bonnes nouvelles, Que vois-tu?
Rien.
Retourne dire, si on va. Alors, il repart. Rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu as vécu? J'ai prié, j'ai une promesse, elle vient de Dieu, et je ne vois rien. Tu es allé une deuxième fois. Que vois-tu? Dans la Bible, il est allé 7 fois. Combien croient qu'on devrait être biblique ici à Nouvelle Vie? Même sa sœur en avant, elle a oui. Alors, une troisième fois, Dieu a promis, j'ai une promesse de la part de Dieu. Je comprends les réalités spirituelles. Je connais mon rôle d'intercesseur. Va voir la promesse de Dieu. Va voir, Dieu est en route. Il pria avec instance. Il pria de nouveau. La prière du juste a une grande efficacité. Que vois-tu?
Un nuage.
Que vois-tu?
Un nuage.
Un nuage comme la forme de la main d'un homme. J'aimerais te dire, voulez-vous l'applaudir avant qu'il meure? Et oublie pas, Jérémie, on a une deuxième réunion, alors allez-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend dans l'esprit le Seigneur qui dit « Prie et prie à nouveau. » Il y a quelque chose dans lequel je t'appelle à donner naissance. J'ai mis la semence en toi, mais tu pries à nouveau. Et nous pouvons ouvrir et fermer le ciel ici sur la terre. Quelqu'un devrait crier « Amen ». Oh, faites mieux que ça, Nouvelle Vie. Faites mieux que ça. C'est cette dynamique. Il y a une attaque, il y a une armure. Il y a une activation qui amène une autorité pour l'accomplissement. Alors, notre arme, la prière est notre arme la plus puissante lorsque tu comprends, lorsque tu connais et lorsque tu combats. Et tu combats avec la parole de Dieu. Élie avait une parole qui venait de la part de Dieu. Éphésiens 6, 17, prenez aussi. Tu combats alors que tu es renouvelé dans la révélation de la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Regardez bien. Lorsque vous lisez Éphésiens 6, vous avez toutes les dimensions du combat spirituel du verset 10 à 16 et de l'armure. On se bat pas contre la chair et le sang, mais contre un monde qui est spirituel. Alors, prenez toutes vos armes. Et vous avez vu on est ensemble verset 18 par la prière. Regardez bien ce qui arrive entre les deux, ce qui relie les deux. L'esprit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Élie savait comment prier parce qu'il avait entendu la parole de Dieu. Il avait entendu la promesse et la déclaration de Dieu. Écoute-moi, il n'y a pas de combat sans l'épée. Il n'y a pas de vrai combat sans la parole de Dieu. Pas un verset que tu as connu il y a des années, pas parce que tu as juste écouté une prédication de dimanche, c'était tellement important. Mais parce qu'il y a une parole de Dieu que tu es allé chercher dans la présence de Dieu, qui a été écrite sur ton cœur par le Saint-Esprit de Dieu, une révélation de Dieu. Sans la parole de Dieu au quotidien qui t'alimente. Et la parole de Dieu, tu ne la trouves pas sur Facebook. Tu ne la trouves pas sur les réseaux sociaux, tu ne la trouves pas sur TikTok et tout le reste. Tu ne la trouves pas en regardant 24 saisons de 24 épisodes. Tu la trouves lorsque tu vas dans sa parole. Et il y a moi, je c'est quelque chose qui est tellement réel pour moi dans mon expérience dans la foi, dans mes saisons de pire attaque et découragement. Lorsque il y a des armes de défensive dans ce texte, mais des armes aussi qui sont offensives. Et j'ai vécu tellement des milliers de fois de me sentir écrasé par l'ennemi et je suis en prière et j'intercède, mais je vais dans la parole et Dieu me donne une parole qui est comme une épée qui me permet d'aller attaquer. Voici ce que Dieu a mis frais. Et je prie maintenant selon la parole. Prenez aussi l'épée de l'esprit. Lorsque Jésus a été face à face avec Satan dans la tentation, le jeûne, la prière pendant 40 jours, il a jeûné, il a prié, mais il a répondu à chaque attaque de l'ennemi avec un « il est écrit ». Avec une révélation fraîche aujourd'hui. Nous passons beaucoup de temps à parler de nos problèmes, nos douleurs, nos souffrances, les uns, nos déceptions, nos frustrations, nos colères, les uns vers les autres. Et le corps de Christ est là pour se soutenir. Mais il y a une limite à l'aide humaine. Et très souvent, humainement, au mieux, tu vas avoir de la sympathie, tu vas avoir des conseils, parfois bons, parfois mauvais, tu vas avoir une perspective humaine. Mais lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, j'ai besoin de plus que de sympathie, j'ai besoin de quelque chose de surnaturel. J'ai besoin d'une parole où Dieu du ciel vient envahir ma réalité et vient la remplir avec sa réalité à lui. Vous savez, en ce moment, ici, on ne les voit pas, mais partout, mais ici, dans ce lieu, dans l'invisible, il y a des ondes radio, des ondes télé, toutes sortes d'ondes, partout qu'on ne voit rien. Et tu ne verras rien, tu n'entendras rien, il n'y a rien qui est visible jusqu'à ce qu'il y ait un récepteur. Il y a un récepteur radio, récepteur télé qui va capter les ondes qui étaient déjà là. Le récepteur n'a pas créé les ondes, elles sont là. Dans le monde spirituel, en ce moment, au-dessus de ta tête et de la mienne, il y a tout un univers, il y a toute une sphère, il y a un monde démoniaque, il y a un monde divin, il y a des anges, il y a un monde démoniaque qui est en activité, il y a tout ça qui roule autour, il y a le désir et la volonté de Dieu. Et sans cette parole, sans prier avec la parole, prier en esprit, sans prendre ton âme, il n'y a pas de récepteur. Tu ne captes rien d'autre que ce que l'humain fait. La prière devient mon âme la plus puissante lorsque je comprends, lorsque je connais le combat, et je termine avec ceci. Lorsque par la prière, je deviens conscient des temps critiques dans lesquels je vis en ce moment. Des temps critiques dans lesquels je vis, de ce qui prend place dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez que parfois, dans le plus terre-à-terre de la vie, il y a toujours un monde spirituel qui tourne? Il y a un petit peu plus d'une semaine, j'étais allé passer 5 jours, je pensais que c'était 3 ou 4 jours, c'est devenu 5 jours pour aller prêcher à New York, puis par la suite prêcher aller au CA, au conseil d'administration sur lequel je siège, de l'organisme World Challenge au Colorado. Et il y a eu des changements dans l'horaire du CA, alors mes vols ont été changés plusieurs fois. Je pensais pouvoir revenir le jeudi, finalement il y avait une session le jeudi soir. Alors tous les vols sont changés, et le vendredi matin, je suis en retard pour m'en revenir, je vais arriver ici seulement le vendredi soir à 23h30, et il y a le dimanche qui s'en vient. Alors je me lève le vendredi matin, j'étais dans ma chambre d'hôtel, et je prie, je dis, Seigneur, je te confie ma journée, Seigneur, et le Seigneur me donne une parole pour la journée, je m'en vais avec cette parole-là, et ce que j'ai à faire, c'est de prendre un petit avion, un petit vol de Colorado Springs jusqu'à Denver, qui est à 2h30 de route, mais c'est à 30 minutes en avion. Puis après ça, Denver-Montréal, 4h30 de temps pour revenir. Lorsque j'arrive à l'aéroport, 1h30 à l'avance, comme on me dit, votre vol est retardé. OK, alors je m'assois, j'essaie de rester zen. Je me rapproche alors qu'on a dit non, retardé une deuxième fois, retardé une troisième fois. Et là, je vais manquer ma connexion à Denver, ça continue. Oui, mais écoutez, monsieur, finalement, on me donne mon boarding pass. Oh, merci beaucoup, ma carte d'embarquement. Je m'en vais jusqu'à la gate, passe à la sécurité, tout le kit. Je m'assois à la gate, ils appellent mon nom. Mr. Hood, terrible de t'appeler Claude Hood aux États-Unis. Mr. Cloudy Howdy. Je reviens, c'est un nom pour rester chez eux. Alors, je reviens. Je reviens au comptoir. Non, là, c'est sérieux, vous allez manquer. Le vol est encore retardé, mais on a une solution. On vous met dans un taxi. 2h30 de route en voiture. Vous dire que j'étais autre chose que parfaitement zen serait mentir. Alors, OK, donnez-moi mon voucher, reprends, va chercher la valise, remonte. Puis là, je regarde, 2h30 de route, incroyable. Je m'assois dans la voiture, vieux taxi, regular taxi, je m'assois dans le taxi, on part, et là, je change mes rendez-vous, je change mes contacts, j'avais rendez-vous. Et finalement, la première seconde que je lève les yeux, Le chauffeur de taxi qui est là, hey, so, hello sir, how are you? I'm good, how are you? Toi, comment ça va? Ça va bien? Il me dit, première question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? What are you doing for a living? Je dis, I'm a pastor, I just came from a. Il a quasiment perdu le contrôle de l'auto. You're a pastor! Là, je me dis, aïe, il y a une anti-église pour 2h30 de temps. Aïe, aïe. Je dis, yes, I'm a pastor. Puis là, il me regarde le miroir avec des gros yeux, puis il conduit, puis il regarde. Puis il dit, my daddy was a pastor, mon père est un pasteur. Ah oui? Pendant 40 ans. Wow! Des petites églises en Louisiane. Wow! Ton père était passé pendant 40 ans en Louisiane. C'est formidable, ça. On parle ensemble. Je dis, comment ça va, ton papa? Non, mon papa, il est décédé. Oui, les larmes aux yeux. Mon papa est décédé récemment. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'explique. Mon père a prêché, terminé la réunion. Il s'est embarqué dans le tour et a dit à sa femme, à ma mère, je me sens pas bien. Puis il a fait une crise cardiaque foudroyante, puis il est décédé. Alors, je me donne mes sympathies, je commence à jaser avec lui, et j'ai dans mon esprit juste de lui, là, son âme à lui, là. Comprenez-vous que pendant qu'il se passe plein d'affaires de vols cancellés, toutes sortes d'affaires sur la terre, il y a une autre intentionnalité divine. Dieu veut servir de toi. Dieu veut que tu exerces ses désirs sur la terre. L'intention divine à travers l'intercesseur. Est-ce que vous dites oui? Fait que je commence à parler. Puis toi, comment ça se fait que tu habites au Colorado, puis toute ta famille est en Louisiane et tout ça. Puis elle dit, well, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, puis je me suis comme éloigné de Dieu. Puis là, je commence à parler. Puis à un moment donné, j'ai dit comme ça, mais en souriant, mais j'ai dit, écoute, peut-être que Dieu a mis un pasteur dans ton taxi aujourd'hui pour te dire qu'il faut que tu reviennes à Dieu. Puis là, encore une fois, le tout fait. Il me dit, that's incredible. Il dit, ma maman, hier soir, on parle au téléphone, puis elle me dit, là, c'est assez. Je prie pour toi, j'intercède pour toi, tu retournes pas au Seigneur, tu retournes pas en église, je t'envoie un ange, prépare-toi. Bon. Les opinions sont diverses sur l'ange, je comprends. Je t'envoie un ange, prépare-toi, ça peut être demain, je t'envoie un ange, puis il va te parler, puis t'es mieux de l'écouter. Fait que là, regardez en arrière, j'ai dit, non, je te garantis que je suis pas un ange. Mais le mot ange, j'ai dit ça, le mot ange, ça veut dire messager. Puis moi, j'ai un message pour toi, papa. Là, on dirait qu'on flyait sur l'autoroute. On est arrivé sur le bord de l'aéroport. Arrête ton taxi, les deux mains. On prie ensemble dans le taxi. Seigneur, tu le ramènes au Seigneur. Je vous parle qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans cette sphère-ci. Mais il y a des temps préparés par Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, Éphésiens 6, 18, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les croyants. Faites en tout temps. Ce n'est pas ici la dynamique qui est biblique, de 1 Thessaloniciens 5 qui dit « Priez sans cesse ». Restez en contact avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche matin à 9h. Reste en contact avec Dieu, mais ce n'est pas ça ici qui parle. Parce qu'il y a deux mots pour le mot « temps » dans le Nouveau Testament, le mot « chronos » et le mot « kéros ». Et ici, il dit littéralement « faites en tout kéros ». Chronos, c'est le temps qui passe, les secondes, les minutes qui deviennent des heures, qui deviennent des jours, des semaines, des mois, des années, des décennies, des millénaires. Nous vivons dans le temps qui passe. Mais il y a un autre mot dans le Nouveau Testament qui est à plusieurs endroits, dont ici, « kéros », c'est des temps précis. Même des temps qui sont périlleux, parmi les temps difficiles que tu peux vivre, les jours mauvais que tu peux vivre, il y a des temps préparés par Dieu, des temps kairos, des temps d'accomplissement, des temps prophétiques qu'il faut que tu peux seulement saisir dans la prière. Lorsque la prière devient puissante, lorsque tu es conscient des temps critiques et que tu te réveilles spirituellement, il y a un temps en ce moment. En ce moment, c'est un moment kairos pour nous. C'est pour ça que dans Éphésiens, pourquoi est-ce qu'il spécifie qu'il y a des temps marqués, des temps spécifiques, des temps avec un appointement? Si je te dis demain, on se rencontre à midi, à tel endroit, à telle heure, ce n'est pas du chronos. C'est pas n'importe quel temps. C'est pas du temps général. C'est un temps spécifique. J'ai rendez-vous avec toi. Il y a quelque chose qui va être partagé. Il y a une intentionnalité. Il va y avoir un résultat à ce rendez-vous. Le temps passe, mais l'Esprit de Dieu nous appelle à des moments où tu dois te réveiller et discerner, être conscient qu'il y a des temps critiques. C'est pour ça que le contexte d'Éphésiens 6 qu'on a lu ensemble, chapitre 6, verset 10 à 11, mais au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous avons besoin de prier à chaque jour de nos vies, mais il y a des saisons de mauvais jours. C'est les saisons de mauvais jours, c'est les saisons où est-ce que tout tourne autour de toi, où tout ce que tu avais bâti semble s'effondrer, où tout ce que tu avais prévu semble tomber à l'eau, où la personne, tous les plans que tu avais pour quelqu'un, c'est l'inverse qui semble prendre place, où ton mariage a explosé, où ta vie a explosé, où ta carrière s'arrête. Les mauvais jours, the evil days, c'est les jours où je ne sais même pas comment je vais passer à travers, c'est les jours où la déception est tellement grande qu'elle va me submerger. C'est les jours où j'ai des pensées que j'aurais jamais pensé avoir auparavant. C'est les jours, dans ces jours-là, dans ces jours-là, la nature charnelle veut juste s'éloigner, veut juste s'étourdir. Mais Dieu dit comme jamais, dans ces moments-là, tu as besoin d'aller chercher ton arme la plus puissante. Tu as besoin d'aller, il y a des moments carios que tu dois discerner, tu dois réveiller ton âme. C'est le temps de prier, pas humainement seulement, de prier par l'Esprit. Si je peux vous faire le contraste, que vous compreniez, l'inverse de l'esprit dans la Bible, c'est la chair, c'est l'humanité. Sans cette intentionnalité, sans ce discernement des moments et cette voix qui crie à Dieu et dit « Seigneur, je ne veux pas prier par moi-même, je veux prier par l'Esprit », tu vas prier des prières humaines. Avec une vision humaine, avec une blessure humaine, avec des raisonnements humains, des conclusions humaines. Et là, tu es limité dans toutes tes pensées humaines à toi, puis tu pries selon ce que toi tu vois, selon ce que toi tu veux, ce que toi tu as toujours voulu, puis tu ne relâches pas. Mais non, les moments kairos vont s'accomplir. Les moments préparés et accomplis de Dieu s'accomplissent par des hommes et des femmes qui laissent l'Esprit de Dieu intercéder à travers eux. Dans Romains chapitre 8, il dit « La terre entière, elle soupire, mais nous aussi, nous gémissons. » Nous aussi, on traverse des saisons de mauvais jours où nous gémissons littéralement. Nous soupirons en nous-mêmes, mais nous avons les prémices de l'Esprit. Dans la présence de l'Esprit. Dieu dit « Priez par l'Esprit », pas des prières limitées dirigées par tes soupirs humains, gémissements humains, déceptions humaines, mais par l'Esprit de Dieu en nous. Comme j'ai enseigné tout l'été, le paraclète de Dieu, le helper, l'aide, le Saint-Esprit, je veux prier par l'Esprit. C'est pas seulement prier en langue, c'est prier, dire « Seigneur, Saint-Esprit, viens maintenant me donner, viens me donner ce qui appartient au Père et au Fils, ce qui est dans le ciel préparé par le Père et le Fils, viens me le communiquer maintenant, viens changer comment je vois, comment je réagis. Voilà. Seigneur, viens par ton Esprit me communiquer. Je prie maintenant avec tes promesses, avec ta parole et je prie en Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous ne savons comment prier, l'Esprit intercède à travers nous selon la volonté, les désirs de Dieu. Moi, j'ai vécu ça des milliers de fois, puis je vais terminer en montrant une place où l'apôtre Paul l'a fait. Terminer avec ça dans un instant. Mais ça fait partie d'une marche d'un serviteur de Dieu. Depuis 40 ans, marcher avec Dieu, j'ai vécu tellement de fois de me présenter devant Dieu en prière. Moi, je marche quand je prie, que ce soit chez nous, partout, au parc, à l'église, ici, dans le sanctuaire. Je marche quand je prie. Et quand je marche et que je prie, bien des fois, je me suis aperçu que dans mon début de prière, c'est moi. Seigneur, regarde ce qui se passe, regarde ce qui arrive, regarde ici. Seigneur, mon fils, Seigneur, l'église, Seigneur, cette attaque, Seigneur, cette situation, Seigneur, cette déception. Et là, c'est prier, mais c'est prier dans la chair, dans mon humanité. Puis Dieu dit, viens déverser tes fardeaux, viens déverser tes besoins. Mais il y a une autre étape. Il y a une autre sphère où tu t'en vas chercher dans le ciel une perspective que tu ne peux pas avoir autrement. Où tu t'en vas chercher par l'Esprit, où l'Esprit est assis à travers toi, puis te ramène à... Et l'apôtre Paul qui enseigne ce principe-là dans Éphésiens 6, nous donne un exemple. Il le vit, il nous donne un petit miroir, il nous donne un petit regard sur sa vie de prière. Il était humain. Et dans 2 Timothée 4, 3, 4, 10 et 14, et 16, je donne l'extrait, je termine avec ça. Paul est en train d'enseigner son jeune fils dans la foi de Timothée, il le mentor. Et nous avons un aperçu de comment Paul, ce qu'il vivait à ce moment-là, ce qu'il expérimentait, les jours mauvais. Il traversait une saison, on sait par l'histoire, qu'il est emprisonné pour une fois de plus et que lorsqu'il a été emprisonné, il a appelé tous ses amis pour le moment pour venir témoigner pour lui. Personne n'est venu. Et là, il écrit à Timothée, il dit ceci. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont à la démangeaison d'entendre des choses agréables. L'époque est dure, les jours sont mauvais, les gens sont pas intéressés aux choses de Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il y a plein de gens, plein de chrétiens qui suivent, plein de folies. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? La vraie folie. What's going on out there? Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des femmes. Et là, il devient plus personnel. C'est sa souffrance. Démas, qui était fidèle et qui était là, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour la Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite est en Dalmatie. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Evil days, les jours sont durs, je souffre. Tous ces gens-là dans lesquels je m'étais déversé m'ont laissé. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi, reste loin de lui. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Puis là, il sort le ça c'est humain, prière humaine. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Paul est dans un temps kairos, dans un temps où il y a des attaques. Les jours sont mauvais, mais il a besoin d'aller chercher l'intention divine. Dieu n'a pas fini. Dieu a encore un plan. Dieu veut te changer. Et ça, il y a seulement l'Esprit qui peut le faire. Il est dans tous m'ont abandonné, Démas m'a abandonné. J'étais en cours tout seul. Personne n'est venu. Lui a lâché. Les gens ne sont pas intéressés, etc., etc. Mais tu peux voir Paul mettre en pratique ce que je vous enseigne ce matin. Tu peux voir Paul aller dans la présence de Dieu et dire... Je comprends les lieux, les réalités spirituelles. Je connais mon rôle comme intercesseur. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Je vais prendre mes armes et la plus puissante. Je vais intercéder maintenant. Je vais aller en prière. Je vais prier selon la parole et je vais prier selon l'Esprit. Et voyez maintenant ce que l'Esprit met dans son cœur. C'est la suite du verset. Juste avant, tous m'ont abandonné. Démas, le monde, partout.
Verset 17-18. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est lui qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise, du mauvais jour. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume éternel. À lui soit la gloire au siècle des siècles. L'Église dit... Voulez-vous applaudir avec moi? Penchez la tête avec moi pendant un instant dans la prière, toi en ligne et ici. Le Seigneur a mis sur mon cœur profondément qu'il y aurait des hommes et des femmes qui en ce moment, tu traverses le mauvais jour. En ligne, tu dis, c'est incroyable, ce message est pour moi. Ici, à Nouvelle Vie, tu dis, c'est parce que là, tu ne peux pas imaginer ce que je portais quand je suis arrivé ici. Et ce matin, l'Esprit de Dieu te parle et te dit, tu as besoin de te lever spirituellement et de dire, je comprends que la prière est mon arme la plus puissante. Je comprends plus que jamais les réalités du monde invisible. Il se passe plein de choses dans ma vie, dans mon mariage, dans mes enfants, dans ma vie, mon ministère, mon appel, dans mon cœur. Il se passe plein de choses, mais ça, c'est là. Ça, c'est pas la racine. Ça, c'est les résultats. La racine, elle est spirituelle. Et aujourd'hui, je comprends et aujourd'hui, je connais mon rôle. Et je veux lever ma voix vers Dieu pour que le ciel du découragement, de l'amertume, de la colère, de la critique, du mépris puisse se fermer. Et que le ciel de Dieu puisse s'ouvrir, la pluie de Dieu puisse venir laver tout ça. La pluie de Dieu puisse venir donner du fruit sur la terre, dans mon cœur et dans ma vie. Je veux combattre avec la parole. Et je veux prier non pas selon ma chair et mes désirs et mes visions et mes limites et mes perspectives, mais je veux prier selon l'Esprit. Et aujourd'hui, en ligne là où tu es, ou ici, laisse-moi prier avec toi. Et Seigneur, je prie pour tous ceux, au nom de Jésus qui vivait ou qui vivent en ce moment même, les mauvais jours. Le temps chronos passe, mais ils sont dans un temps kairos en ce moment. Un temps où il y a des jours mauvais, mais où toi, tu veux amener la joie et le miraculeux dans le cœur, où tu veux protéger la semence divine. Alors, je prie maintenant pour chaque personne au son de ma voix, maintenant, ici à Longueuil et partout au Québec, en francophonie, partout, où en ce moment, ce message touche les cœurs, où l'Esprit de Dieu agit. Et je te prie que partout, ton peuple, tes hommes et tes femmes, tes fils et tes filles, puissent se lever et dire, Seigneur, me voici, j'appelle à toi. Me voici maintenant, je vais aller chercher du ciel ce que tu vas amener sur la terre. Maintenant, je ne lutte plus contre la chair et le sang. Je prends mes armes spirituelles et les forteresses vont s'abattre. Et la pluie va venir. Cette fois, s'il le faut, j'irai encore et j'irai encore et j'irai encore. Je porte en moi et je vais amener à la vie ce que tu as déposé en moi qui vient du ciel. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, ravive le cœur et l'esprit de tes fils et de tes filles. Et nous nous offrons à toi, nous nous présentons à toi. Et aujourd'hui, le ciel va se fermer sur tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est mensonge. Et le ciel va s'ouvrir avec la révélation fraîche, avec la guérison, avec la libération, avec la nouvelle perspective et direction de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ce moment, ce kairos, un moment de défaite pour les ténèbres et un moment de victoire pour le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu, acclame à l'avance ce que Dieu va faire. Allez, Nouvelle Vie!